Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, pourrons-nous jamais assez proclamer l'immense valeur de la Bible, la parole de Dieu, le témoignage de Dieu ? Pour qu'elle puisse être écrite et parvenir jusqu'à nous aujourd'hui, innombrables sont ceux qui se sont consacrés à cette tâche, voire qui ont sacrifié leur vie pour cela. Car ce message puissant et véritable a de tout temps rencontré beaucoup d'opposition de la part de ceux qui ne supportaient pas sa dénonciation du péché sans concession, et son appel pressant et continuel à se détourner des façons de faire mauvaises du monde et à se tourner vers le seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En même temps, quelle précieuse source de la sagesse d'en haut, tellement supérieure à n'importe quelle forme de sagesse humaine. Quel conseil sans prix pour passer de la voie large qui mène à la perdition au chemin étroit qui mène à la vie. Quel guide indispensable pour le voyageur de l'existence qui veut aller de la mort à la vie. Et voici encore un témoignage à la valeur si grande de cette parole de Dieu. L'officier du KGB lui déclara « Votre foi est pour nous plus dangereuse que n'importe quel crime. Quand tu auras achevé tes 10 ans de condamnation, tu seras condamné à 10 autres années et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu meures. Renie Dieu et tu pourras rentrer chez toi. » Durant sa longue captivité dans les goulags soviétiques, la foi du pasteur Vince est souvent éprouvée. Et il doit tout au long des jours faire face à toutes sortes de menaces et de pressions. George Vince est né en 1928 en Extrême-Orient russe, où son père Peter Vince travaille comme missionnaire. Et lorsque George est encore un jeune garçon, son père est arrêté et envoyé dans les camps de travail pour sa foi et ses activités missionnaires. Il n'a d'ailleurs jamais retrouvé la liberté, car il est mort fusillé en 1936 lors des purges staliniennes, ce que son fils n'a appris qu'en 1995, lorsqu'enfin il a eu accès à son casier judiciaire établi par le KGB. La mère de Georges quitte la Sibérie après la Deuxième Guerre mondiale pour s'installer à Kiev, où son fils, converti à l'âge de 16 ans, fait des études pour devenir ingénieur en électricité, avant de recevoir plus tard un appel pastoral. Évoquant dans sa biographie, dont le titre est pourtant « La parole triomphe », les conditions difficiles pour les chrétiens dans la société soviétique, il raconte comment il a dû attendre 6 années après sa conversion avant de posséder sa propre Bible. Condamné une première fois en 1966 à 3 années de détention dans le nord de l'Oural, Georges poursuit son ministère après sa libération, puis entre dans la clandestinité afin de pouvoir œuvrer le plus longtemps possible pour le Seigneur dans ce monde bouleversé. Mais en 1974, le KGB réussit à retrouver sa trace et il est alors condamné à 10 ans de détention dans la région sibérienne de Yakoutie. Lors de cette deuxième détention, le KGB lui donne d'abord un travail en tant qu'ingénieur dans une usine. Mais déjà au bout de quelques jours, accusé à tort de vouloir monter une imprimerie clandestine dans l'usine même, afin d'imprimer des brochures chrétiennes, il est transféré dans un autre camp encore plus au nord. Dans sa tête résonnent encore les dernières paroles d'un officier du KGB. « Vous êtes un dangereux récidiviste ». Et pour justifier les conditions difficiles de sa détention, un autre officier souligne « Votre foi est plus dangereuse que n'importe quel crime ». Jusqu'en 1979, George Vince est ainsi séparé de son épouse Nadezhda, qui doit, seule, élever leurs 4 enfants. Il se retrouve enfermé dans différents camps. Il a très rarement des nouvelles de sa famille, et encore moins des églises où il a tant œuvré pour que les chrétiens demeurent fidèles dans une société où tout est fait pour éradiquer la foi. Souvent, il est soumis à des pressions pour renier sa foi, comme le jour où un officier lui déclare « Quand tu auras achevé tes 10 ans de condamnation, tu seras condamné à 10 autres années, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu meures. Renie Dieu et tu pourras rentrer chez toi. » Mais dans le cœur du pasteur, comme il l'explique dans son livre, résonnent alors les paroles du Seigneur Jésus-Christ. « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est dans Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. Lors d'une visite brève de sa famille, son épouse est appelée dans le bureau d'un officier supérieur où elle est soumise à une forte pression pour signer un document où elle demanderait à son mari de renier sa foi en échange de sa libération. La réponse de l'épouse est brève et claire. Mon mari n'a pas commis de crime. Il est prédicateur de l'Évangile. Il ne peut pas démissionner de ce ministère. Et il ne le fera pas. Mais dans ce milieu difficile, il a aussi souvent des occasions de témoigner de sa foi. Lors de la visite de son épouse, et malgré les fouilles minutieuses, Madame Vince réussit à donner à son mari un évangile de Jean, que celui-ci découpe en morceaux qu'il cache ensuite dans des cavités creusées sous la semelle de ses bottes, préparées avec soin à l'avance dans ce but. Hélas, la place n'est pas assez grande pour tout l'évangile. Il ne peut garder que les 15 premiers chapitres. Il réussit à introduire aussi, caché dans l'ourlet de sa manche, un micro-évangile de Marc, édition spéciale, pour faciliter son introduction dans les camps. Cette petite partie de la parole de Dieu sera tout au long de son incarcération une consolation précieuse, et beaucoup de ses co-détenus, des criminels endurcis, qui n'avaient jamais voulu auparavant entendre parler de Dieu, demandent à lire l'évangile et se tournent vers Dieu. Les deux petits livrets circulent entre beaucoup de prisonniers, échappant de façon miraculeuse aux fouilles régulières, pourtant si minutieuses. Le pasteur Vince réussit à garder le micro-évangile de Marc caché dans une boîte à savon jusqu'au mois de mars 1979 où, pendant un transfert dans la gare ferroviaire d'Irkoutsk, le livret est découvert lors d'une fouille. Le soldat veut le déchirer et le jeter dans une poubelle. Lorsque George Vince proteste à haute voix, un officier surgit. Lui montrant le livre défendu, le pasteur répète son attachement au livre. « C'est un évangile, c'est ma vie, ma foi !» Et les soldats ont voulu le déchirer. « Donne-le-moi, » dit l'officier. Et en portant le livret, il repart dans son bureau. 10 minutes plus tard, il revient, tend l'évangile à Georges et lui dit devant tous, « C'est votre évangile, prenez-le, vous pouvez le garder. » Le Seigneur a ainsi su disposer, contre toute attente, le cœur de cet officier. Lorsque le pasteur Vince arrive dans le compartiment du train où se trouvent tous les prisonniers qui ont déjà été fouillés, ses camarades de captivité, ceux-ci se précipitent vers lui. Ils ont été témoins de la scène et lui demandent de leur montrer l'évangile. Et dans ce wagon, bondé de prisonniers, entouré de gardiens, le pasteur peut lire le message de la Bible, annoncer la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ devant un auditoire recueilli dans un grand silence. Durant ce même transfert qui dure plusieurs jours, le serviteur de Dieu est soumis à une autre épreuve qui aurait pu se terminer très mal. Arrivé dans la prison de Novossibirsk, après un voyage de 48 heures sans arrêt, sans manger et sans pouvoir dormir, il est séparé de ses camarades de détention et placé dans une autre cellule remplie de criminels violents. Ils entourent le nouvel arrivé, l'air menaçant, cherchant visiblement un prétexte pour le passer à tabac. George Vince est si épuisé qu'il tient à peine debout. Mais sans lui laisser le moindre repos, il le presse de questions, le prenant pour un prisonnier espion, placé dans leur cellule pour dénoncer tout acte de rébellion. Lorsqu'ils comprennent enfin qu'il est pasteur et que son seul crime est d'avoir annoncé l'évangile, ils commencent à se calmer, mais exigent qu'il leur montre la Bible. Lorsqu'ils voient le petit évangile de Marc, de façon étonnante, leur animosité disparaît. Ils veulent toucher et lire le petit livre, et ils posent une multitude de questions sur la foi, sur le Seigneur Jésus-Christ, le salut. Soudain, la porte de la cellule s'ouvre devant un officier, accompagné de deux soldats qui regardent attentivement la scène. Le pasteur Vince voit alors clairement leur étonnement, et aussi leur déception évidente de le voir indemne, entouré presque amicalement par ces criminels redoutables, et il comprend qu'il a été placé parmi ces hommes, exprès pour être battu par eux. Encore une fois, Dieu a protégé son serviteur en disposant favorablement ces hommes endurcis, ouvrant même leur cœur à l'annonce de l'Évangile. À son réveil le lendemain matin, George Vince découvre stupéfait 15 criminels assis autour de la seule table de la cellule en train de lire ensemble l'Évangile de Marc. Et celui qui la veille au soir était le plus menaçant vient vers le pasteur, se faisant le porte-parole de tous, lui demandant de leur expliquer le message de l'Évangile et le chemin du salut. Le pasteur Vince passa 7 jours dans cette cellule. Mais comme il le dit dans son livre, ce sont des jours merveilleux, lumineux et heureux. Du matin au soir, nous nous sommes entretenus de Dieu et du salut. Plus aucune trace d'hostilité à mon égard. Le petit évangile de Marc avait éclairé de sa lumière divine leur cœur sombre et criminel. Les autorités soviétiques avaient prévu d'exiler le pasteur Vince dans la région de Tioumen, en Sibérie, pour qu'il y purge les 5 dernières années de sa peine. Mais le 26 avril 1979, une grande surprise attend le prisonnier. Réveillé de bonne heure, il est conduit à l'aéroport et mis dans un avion à destination de Moscou. Là, les autorités l'informent qu'en raison de ses activités hostiles, il est privé de sa nationalité soviétique et expulsé vers les États-Unis. Il apprendra plus tard qu'il a bénéficié d'un échange de prisonniers. Il part donc libre vers ce nouveau pays où sa famille peut le rejoindre. Dans le but de continuer à servir ses frères en Union soviétique, il crée une œuvre missionnaire, The Russian Gospel Ministries, organise la défense des prisonniers religieux dans son pays d'origine et met tout en œuvre pour leur libération. Plus tard, en 1990, sous la présidence de Mikhail Gorbatchev et de la perestroïka, sa nationalité soviétique lui est rendue. Il peut à nouveau retrouver les églises de son pays pour lesquelles il a tant prié et tant œuvré et qu'il continue à servir jusqu'à son départ pour le Royaume Céleste en janvier 1998. Voilà un témoignage de fidélité, un témoignage d'attachement à la parole de Dieu et un témoignage de la grande valeur de la parole de Dieu, laquelle nous voulons ouvrir encore maintenant, mais nous prierons d'abord. Nous te remercions, Seigneur, pour le témoignage de fidélité que nous avons pu entendre. Nous te remercions pour tous ceux qui, par leur fidélité, eh bien, ont été des moyens de transmission de l'Évangile, pour que nous puissions à notre tour entendre ce bel Évangile, Seigneur, et que nous puissions en être aussi les transmetteurs, et nous puissions être à la fois les bénéficiaires et ceux qui en font bénéficier d'autres. Merci, notre Dieu. Béni sois-tu pour ces moments que tu nous donnes aussi maintenant même. Merci pour l'œuvre que tu accomplis puissamment par ta parole de vie. Amen. Voilà, je vous invite, mes amis, mes frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Proverbes au chapitre 2 et au verset 1er. Voulons parler aujourd'hui de la sagesse. La sagesse de Dieu et celle des hommes. Nous lisons déjà dans ce chapitre 2 au verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, et nous arrêterons ici. Vous voyez bien que ce passage nous parle très clairement de la sagesse, et très particulièrement de la sagesse d'en haut. Alors, en introduction, simplement vous rappeler peut-être ce charmant conte d'Andersen, où il est question d'un empereur vaniteux, désireux de toujours briller aux yeux des autres, et comment deux escrocs très rusés utilisèrent ce trait de caractère pour amasser une fortune et ridiculiser le monarque. Ils prétendirent avoir tissé un habit d'une si grande finesse, d'une si grande transparence qu'il était quasi invisible. Toute la cour, tout le peuple parlait de ce merveilleux habit et brillait d'impatience de le voir. Les deux coquins avaient fait courir le bruit que seules les personnes sottes ne voyaient pas l'habit. Ministres, fonctionnaires, courtisans et la foule qui assistait au défilé, le jour où l'empereur mit ses habits de lumière, pour ne pas paraître inintelligent, affirmèrent les uns et les autres que c'étaient là des vêtements merveilleux. Jusqu'au moment où un enfant fit à haute voix la réflexion « Mais l'empereur est en chemise !» Alors tous s'exclamèrent de même. Mais l'empereur, affermissant sa démarche, fit comme si de rien n'était, et ceux qui tenaient la soie disant « traîne » suivirent un air avec dignité. Quelle finesse psychologique chez Andersen, qui connaissait la nature humaine. À toutes les époques, par vanité ou par conformisme, bien des humains ont adopté des comportements et idées à la mode, pour ne pas paraître anachroniques ou lents à comprendre. Cela a parfois eu des conséquences tragiques, comme dans l'Allemagne nazie, mais le plus souvent elles ont été, fort heureusement, moins graves, prêtant tout au plus à sourire. Cependant, ce désir de conformisme, d'être à la mode, pour ne pas être appelé rétrograde, ringard, comme on dit aujourd'hui, peut conduire à une certaine aliénation et au ridicule. Il en est qui savent exploiter ce sentiment, en bien des domaines, et en particulier sur le plan commercial. De nos jours, la puissance de la publicité, des médias et de la télévision en particulier, multiplie le pouvoir de manipuler les foules. Pour être dans le vent, pour paraître moderne, que de slogans, de manières de penser, de vivre, de s'habiller même, sont adoptés par beaucoup. Le bon sens, la saine critique, deviennent une denrée rare à notre époque, et pourtant sont indispensables. Ces paroles de Pablo Picasso m'ont beaucoup frappé. Dans les arts, le peuple ne cherche plus ni consolation ni exaltation. Mais les raffinés, les riches, les oisifs, les distillateurs de quintessence cherchent le nouveau, l'extraordinaire, l'original, l'extravagant, le scandaleux. Et moi, Pablo Picasso, depuis le cubisme et au-delà, j'ai contenté ces messieurs et ces critiques avec toutes les multiples bizarreries qui me sont venues en tête. Et moins ils les comprenaient, et plus ils les admiraient. À force de m'amuser à tous ces jeux, à toutes ces fariboles, à tous ces casse-têtes, rébus et arabesques, je suis devenu célèbre, et très rapidement. Et la célébrité signifie pour un peintre vente, gain, fortune, richesse. Et Pablo Picasso dit encore, « Aujourd'hui, comme vous le savez, je suis célèbre, je suis riche, mais quand je suis seul à seul avec moi-même, je n'ai pas le courage de me considérer comme un artiste dans le sens grand et antique du mot. » Ce furent de grands peintres que Giotto, Le Titien, Rembrandt et Goya. Je suis seulement un amuseur public qui a compris son temps et apaisé le mieux qu'il a pu l'imbécilité, la vanité, la cupidité de ses contemporains. C'est une amère confession que la mienne. Plus douloureuse qu'elle ne peut sembler, mais elle a le mérite d'être sincère. Bien que tardive, la confession de Pablo Picasso est honnête et pleine d'enseignements. Hélas, une telle démarche n'est pas courante. Si nous ne voulons pas être des moutons de Panurge, il est plus nécessaire que jamais de conserver notre liberté de penser, d'évaluer, de conclure. Cela est indispensable en tout domaine, dans la vie courante comme dans les grandes options de l'existence. Notre société en continuelle évolution, au gré des modes divers, est un miroir déformant de la réalité. La Bible est un miroir exact qui nous permet de nous voir tels que nous sommes, et de contempler notre temps à la lumière de l'éternité. Si nous l'écoutons, nous pourrons discerner le vrai du faux et choisir avec assurance ce qui est bon et ce qui le demeure. D'où la nécessité de la sagesse de Dieu. D'où l'importance en particulier de ce texte que nous avons pu lire tout à l'heure, dans le livre des Proverbes au chapitre 2. Alors, nous voulons parler tout d'abord dans un premier point, premier grand point à ce sujet, justement de la sagesse humaine et de la sagesse de Dieu, parce que de tout temps, les hommes ont cherché la sagesse. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils pensaient trouver en elle tout ce qui leur est nécessaire pour être heureux. Et c'est l'origine de diverses philosophies, religions, façons de penser qui ont existé depuis la plus haute antiquité dans l'humanité. Par la sagesse, les hommes ont essayé de trouver la réponse aux grandes questions et aux grands problèmes de l'homme. À quoi sert la vie ? Quel est le meilleur but dans l'existence ? Comment arriver à ce but ? Comment être heureux ? Et qu'y a-t-il après la mort ? Peut-on connaître le bonheur après la mort ? Et pourquoi y a-t-il de la souffrance ? Que faire face à la maladie ? Pourquoi les injustices, la pauvreté ? Comment trouver une solution à ces choses ? C'est vrai que pour répondre à ces diverses et importantes questions, ils ont inventé toutes sortes de réflexions, de réponses, de moyens, des religions, des philosophies en tout genre. Concernant les buts de la vie, voici tous ceux qui disent qu'il faut absolument profiter de l'existence au maximum, par exemple. D'autres extrémité du spectre vont dire que ça ne sert à rien. Voici l'existentialisme avec Sartre et d'autres. Qu'y a-t-il après la mort ? Là aussi, toutes sortes de réponses entre ceux qui prétendent qu'il n'y a rien, d'autres qui parlent de réincarnation, et la Bible qui a son message bien à elle. Que faire en face de la souffrance ? Alors, l'attitude du fatalisme, évidemment, la lutte par des moyens médicaux est prônée et a toute son utilité aussi, mais ses limites également. Et puis, nous avons aussi la lutte par divers moyens magiques, religieux, etc. Alors, Voilà encore, et aussi que faire face aux injustices, face à la pauvreté. Alors, vous avez évidemment la révolte, la lutte armée, la force, la révolution. Et dans le monde, on peut le voir aussi. Et puis, vous avez aussi la recherche de la richesse, de la prospérité, les diverses entreprises. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est que toutes les solutions de la sagesse humaine n'ont jamais réussi à répondre vraiment, à répondre pleinement au problème des hommes, parce qu'on s'aperçoit que jamais la sagesse n'a rendu véritablement heureux. Hein, si je prends l'exemple de deux phares de notre société française, qui, comme Voltaire et plus près de nous, Sartre, ou Camus, on voit bien que ces hommes ont été profondément malheureux, spécialement vers la fin de leur existence. Jamais non plus la sagesse n'a rendu les hommes véritablement justes, parce que regardons le monde dans lequel nous vivons. Nous voyons bien que s'il est dirigé en tout ou en partie par des sages, eh bien on s'aperçoit que cette sagesse n'a pas tous les effets qu'elle prétendrait avoir. Et jamais la sagesse n'a vraiment trouvé la solution à la souffrance. Elle aussi est impuissante dans bien des situations. Et c'est pour ça que Dieu a condamné la sagesse du monde, est-il marqué. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 19, nous lisons la chose suivante. Donc, ça parle de la puissance de Dieu, et puis il est dit, aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?» Et oui, c'est vrai. Ça, c'est le verdict de Dieu sur cette sagesse. Donc, et il a proclamé que le seul moyen de nous en sortir, c'est de rechercher sa sagesse à lui. Parce que c'est lorsqu'on a trouvé cette sagesse de Dieu qu'on a enfin la réponse et la solution à tous nos problèmes. Alors, quels sont les avantages? C'est notre deuxième grand point. Les avantages de la sagesse de Dieu. Dans Proverbes, chapitre 8, au verset 11, nous lisons « La sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Alors la sagesse du monde va nous dire, placez par exemple votre argent dans les diamants, les perles, les bijoux, que sais-je, c'est le meilleur moyen de vous enrichir, c'est le meilleur placement. La sagesse de Dieu répond, placez votre espérance en Dieu, donnez votre vie à Christ, c'est le meilleur moyen de posséder les richesses éternelles. On raconte cette petite anecdote d'un inspecteur des impôts qui rendait visite à un serviteur de Dieu, et celui-ci lui a dit « Je suis un homme riche ». Et voilà que l'inspecteur alléché sort son stylo et lui demande « Que possédez-vous ? » Et cet homme de Dieu de lui dire « Je possède un sauveur qui m'a gagné la vie éternelle et me prépare une place dans la cité céleste. » « Alors quoi encore ?» dit son interlocuteur. « Une femme pieuse et qui obéit au Seigneur, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. »« Quoi encore ?» poursuit le fonctionnaire. « Des enfants obéissants et en bonne santé. »« Et quoi encore ?»« Eh bien, un Dieu qui répond à mes prières, quand je prie pour mes bien-aimés, malades ou dans le besoin. »« Et quoi encore ?»« Eh bien, mon cœur rempli de la paix de Dieu qui me permet de passer ma vie dans la joie. »« Et quoi encore ?» C'est tout. Alors le fonctionnaire a fermé son livre, son registre, il s'est levé, il a pris son chapeau, il a dit « Vous êtes certainement un homme riche, monsieur, mais ne pouvons pas vous faire payer d'impôts sur vos propriétés. » C'est vrai. Ecclésiaste chapitre 9, verset 16 nous dit encore « La sagesse vaut mieux que la force, parce que notre Dieu est un Dieu de délivrance pour ceux qui recherchent sa sagesse, et qui ne laisse jamais le faible qui crie à lui, il est le Dieu de la veuve, de l'orphelin. » Et nous lisons encore dans Proverbes chapitre 16 au verset 16 pour parler de la valeur de la sagesse. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Et là encore, quelqu'un disait, avec de l'or, on peut acheter un lit, mais pas le sommeil, des médicaments, mais pas la santé. On peut acheter une nourriture recherchée, mais pas l'appétit. On peut acheter des plaisirs, mais pas le bonheur. On peut acheter un magnifique tombeau, mais pas une place au ciel. Mais avec la sagesse de Dieu, eh bien, on peut bénéficier de toutes ces choses. Oui, effectivement, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Alors, notre point suivant, c'est comment faire pour rechercher et recevoir la sagesse de Dieu. Et l'attitude pour recevoir cette sagesse, nous est expliqué dans le passage que nous avons lu au début, que je me permets de relire avec vous. Donc, Proverbes chapitre 2, versets 1 à 4. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de Dieu, etc. » Donc, vous avez noté certainement le crescendo qu'il y a depuis le passage, depuis le début de ce passage. Il est question d'abord de recevoir la parole de Dieu. Il est question de l'accepter, c'est-à-dire de ne pas avoir d'a priori à son égard, ne pas critiquer sans savoir, ne pas discuter comme ça de but en blanc. L'accepter d'un cœur simple, d'un cœur confiant, même si peut-être, oui, on ne comprend pas tout de suite, pas tout, tout de suite, et c'est évident qu'on ne va pas forcément comprendre tout tout de suite. Ça, c'est la première étape, donc recevoir la parole de Dieu. La deuxième marche de l'escalier, toujours dans ce verset 1, c'est garder la parole de Dieu. Le tout n'est pas d'accepter et puis d'oublier, mais de se souvenir de ce que la parole de Dieu dit, de le garder dans sa mémoire et dans son cœur. Vous savez bien des gens qui peuvent dire oui, oui, et puis après, bien, on ne les revoit plus, ou ils ont oublié parce que c'était très superficiel. Nous avons au contraire dans l'Écriture l'exemple de Marie, la mère de Jésus, nous a dit qu'elle gardait et repassait dans son cœur toutes ces choses concernant Jésus-Christ. Et nous savons combien cela lui a été à elle-même salutaire et à d'autres aussi. Et puis, la troisième étape de cette recherche, c'est de rendre son oreille attentive à la sagesse. Donc là, ça va plus loin que simplement recevoir ou que garder. Il s'agit maintenant d'écouter attentivement, de se concentrer sur ce que Dieu à nous transmettre au travers de sa parole, de chercher vraiment à le comprendre. Et ce qui nous amène au point suivant, incliner son cœur à l'intelligence. Donc chercher vraiment à comprendre, avoir le désir de soumettre là nos pensées, nos sentiments et notre vie tout entière à la parole de Dieu. Et puis des questions verset 3, ensuite en cinquième, d'appeler la sagesse, c'est-à-dire demander à Dieu de nous la donner, de le prier de le faire. Parce que nos efforts, bien que nécessaires, sont insuffisants si Dieu ne se révèle pas. Mais certainement le fera-t-il pour ceux qui ont à cœur de faire monter vers Dieu cette prière. Et il est question aussi, non seulement cela, mais d'élever sa voix vers l'intelligence, c'est le sixième point, de plus en plus fort. Voici une prière qui exprime un désir de plus en plus grand de posséder cette sagesse et qui devient si grand qu'on en crie à Dieu. Et puis, il dit enfin, verset 4, « La rechercher comme l'argent, la poursuivre comme un trésor. » Voilà, y mettre tous nos efforts, chercher et vous trouverez. Donc, celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe, dit le Seigneur. Et nous voyons que pour posséder de plus en plus la sagesse de Dieu et expérimenter de plus en plus combien elle est merveilleuse, il y a ces degrés de plus en plus élevé que nous devons franchir, que Dieu nous demande de franchir. Voilà. À celle ou à celui qui entend pour la première fois, eh bien, nous voyons bien que le Seigneur va se manifester, que le Seigneur va se révéler, et il va demander cependant de recevoir et d'accepter. À celui qui a reçu, il va demander de garder avec soin comme son précieux trésor. À celui qui a gardé, il va demander d'être attentif, car il veut nous en donner de plus en plus. Et s'il voit qu'on a ce désir d'avancer, de progresser, de rechercher sa sagesse et sa volonté, il va nous bénir de façon merveilleuse. Et c'est pour ça qu'au verset 5 de notre texte de départ, il est bien indiqué « Tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Il nous fera connaître Dieu. Et nous aurons ainsi la sagesse. Nous n'aurons pas simplement la connaissance d'une religion. Ce n'est pas ce qu'on imagine. On s'imagine trop souvent un Dieu lointain ou terrible ou indifférent ou certains prétendent mort ou impersonnel. Mais non. On va découvrir un Dieu vivant. Un Dieu qui agit dans notre vie, qui répond à la prière, qui exauce pour notre bien. Un Dieu d'amour qui pardonne, qui fait grâce à ces pécheurs et coupables que nous sommes. Et le verset 7, verset 7 nous dit encore qu'il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Le salut, Eh bien, c'est cette certitude d'être sauvé pour l'éternité, d'aller au ciel dans la présence de Dieu. C'est pour ça que dans Ésaïe, au chapitre 33, verset 6, il est encore écrit « La sagesse et l'intelligence sont une source de salut ». Et le salut, ça peut aussi se traduire dans un autre sens par, quelque part, succès permanent. Succès permanent. Et celui qui accepte de rechercher la sagesse et la volonté de Dieu réussit dans ses entreprises. Ainsi disons-nous dans Ecclésias chapitre 10 au verset 10, la sagesse a l'avantage du succès. Quand Dieu a parlé à Josué, il lui a dit de méditer la parole de Dieu, de la lire, de la méditer jour et nuit, et qu'ainsi il aurait du succès dans ses entreprises, ainsi qu'il réussirait. Et puis, le verset 8 de notre texte de départ, dans le Proverbe chapitre 2, dit encore « Il garde la voie de ses fidèles ». Ça veut dire qu'il va les protéger, il va les garder de tout mal, il va les tirer de toute difficulté, il va les tirer de toute dépression, de tout découragement, les guérir de la maladie, les secourir dans leur faiblesse. Il va répondre à tous leurs problèmes parce qu'il a la solution. Il ne les abandonne jamais. Jusqu'à ce qu'il soit amené dans sa présence et dans le ciel. Alors voilà, alors nous arrivons maintenant vers la fin de notre moment. Et voilà, qu'est-ce que la sagesse de Dieu en fait ? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu ? Nous avons parlé des avantages de cette sagesse. Nous avons expliqué comment rechercher et recevoir cette sagesse. Mais finalement, qu'est-ce que c'est exactement la sagesse de Dieu ? Alors on peut la définir et la résumer en un seul mot. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Nous avons au moins deux passages qui nous disent cela. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 23, nous lisons « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. » Et un peu plus loin, au verset 30, Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse. Et c'est ainsi qu'on peut dire que la sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous enseigne par sa parole. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui nous rend justes devant Dieu. C'est lui qui opère pour nous guérisons et délivrances. C'est lui qui exauce nos prières. C'est lui qui veut conduire notre vie. Et c'est lui qui veut nous rendre heureux, pourvu bien sûr qu'on le cherche de tout son cœur. Et toutes ces choses sont possibles parce que Dieu a voulu qu'il soit pour nous sagesse. Alors, si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, eh bien recherche la sagesse, Jésus-Christ, de tout ton cœur. Si tu veux qu'il réponde à tes prières, eh bien accepte sa parole, garde-la, élève ta voix vers lui en lui adressant ta fervente prière. Veux-tu voir de plus grandes choses dans ta vie ? Eh bien, cherche-le comme l'argent, hein, comme il est marqué. Hein. Poursuis-le comme un trésor. Il se laissera trouver par toi. Peut-être te dis-tu, je n'arriverai jamais. Je ne suis pas assez bon pour que Dieu me réponde. J'ai trop de problèmes, je ne m'en sortirai pas. Alors pour toi, il y a une parole merveilleuse dans l'Écriture sainte, encore dans la parole de Dieu. Dans l'Épître Jacques, au chapitre 1, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche. » Enfin, pour conclure, maintenant, rappelons combien Voltaire, dont nous avons dit un mot tout à l'heure, combien Voltaire s'était trompé. Voltaire ne manquait jamais une occasion de se moquer de la foi et de tout ce qui pouvait se rattacher au culte de façon générale. Un monde sans Dieu, sans religion, voilà ce qui semblait caractériser la société idéale pour le célèbre philosophe. La France devait de montrer l'exemple au monde entier. Et pour lui, ce grand moment était maintenant tout proche. On lit en effet dans son journal un témoignage éloquent. « Je viens de relire quelques pages de la Bible », écrivait-il. « Je ne donne pas un siècle pour que la Bible ne soit plus considérée que comme l'almanach de l'an passé. » Un siècle, et même deux, ont passé depuis que ces livres ont été écrits, et plus encore. La Bible est-elle encore lue aujourd'hui ? Ou, comme le prétendait ce penseur, est-elle reléguée au rang des antiquités aujourd'hui délaissées ? Les statistiques le montrent. La Bible demeure le livre le plus lu et le plus diffusé au monde. Premier livre sorti des presses de Gutenberg en 1452, Il est actuellement traduit en totalité ou en partie en plus de 3400 langues et dialectes. 30 millions de Bibles et de Nouveaux Testaments, c'est la deuxième partie de la Bible, comprenant entre autres les Évangiles, sont diffusés chaque année. Aujourd'hui, Dieu parle encore aux hommes à travers ces textes, comme il le faisait, voici 1000, 2000 ou 3000 ans. Seule la Bible répond aux questions essentielles de l'existence. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous sur terre? Qu'y a-t-il après la mort? Combattue, interdite sous les dictatures, elle a traversé tous les siècles et les aléas de l'histoire pour éclairer la vie de ceux qui cherchent la lumière de Dieu. À tous les hommes, Jésus le Christ dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. » Et Seigneur, nous te remercions pour ces moments, pour ta parole vivante et agissante. Nous te remercions pour cette sagesse d'en haut si merveilleuse dont nous avons pu parler en peu de mots, qui est personnifiée en Jésus-Christ. Et merci Seigneur pour justement ta personne bénie que tu veux encore révéler à nos cœurs, à nos âmes et à nos vies. Et merci pour l'œuvre que tu veux faire en chacune et en chacun, pour que nous puissions saisir toute la valeur de ton message, de ton action, de ton œuvre, Seigneur, et que nous puissions appliquer cela dans nos propres existences à chacun. Que nous puissions venir à toi, que nous puissions écouter comme des disciples écoutent leur maître et ensuite te suivre aussi comme des disciples suivent leur maître. Merci Seigneur pour ceux que tu bénis encore tout particulièrement dans cette décision qu'ils prennent pour accomplir cela. Sois béni, sois loué Seigneur. Amen. Amen. Voilà, chers amis, simplement pour vous rappeler que l'évangélisation dans les villages, donc en boîte aux lettres, eh bien, doit se poursuivre ce samedi, c'est-à-dire demain. Rendez-vous ici à 14h30 pour cela. Le culte du dimanche a toujours lieu à 8h30 et à 10h45. Pour y participer, il est bon de s'inscrire sans tarder. Et la réunion de prière, c'est toujours le mercredi à 16h, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour cela. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, en particulier ceux qui s'attachent à la parole de Dieu pour y suivre Jésus, qui a été fait pour nous sagesse de Dieu et puissance de Dieu. Amen.